Le temps des chouquettes, votre rodéo littéraire, une émission présentée par Lucas Beria, un mardi par mois à 18h sur Radio Campus Paris.
Chères chouquettes du monde entier, c'est sous les airs d'accordéon de Yann Tiersen que s'ouvre notre entretien, car il semblerait que notre héroïne du jour ait de faux airs d'Amélie Poulain. C'est en tout cas ce qui m'a été soufflé par certains libraires qui ont déjà eu le bonheur de découvrir Grand Prince, le nouveau roman d'Alexias Trézy, paru aux éditions Flammarion en ce début d'année. Nulle carte postale parisienne ici ou d'images couleur sépia des rues de Montmartre, mais bien les paysages de Loire-Atlantique et leurs marais salants. Et au milieu d'eux, Simone Guillou, 85 ans, qui laisse patiemment défiler les derniers jours de son existence. La maladie l'a pour le moment épargnée, Simone, et elle s'occupe comme elle peut, en attendant les visites de son fils Thierry et les appels de sa petite fille Céline. Ce que Simone Guillou retient de tout ça, c'est qu'elle n'aura pas eu une trop mauvaise vie. Simplement, ce n'est plus comme avant, force est de le constater. Depuis des mois, elle se traîne un peu, Simone. C'est affreux à dire, il y a de la lassitude. Que voulez-vous ? Personne n'a encore trouvé le moyen de rester vivant sa vie entière, n'est-ce pas ? Voilà quelques-unes des phrases savoureuses que nous offre Alexias Trézy au fil des pages de ce roman. Simone, c'est vous, nos grands-mères ou nos mères, et un personnage qui nous confronte joyeusement à la finitude de nos vies. Alors comment rester vivant sa vie entière ? Élément de réponse, en compagnie d'Alexias Trézy, ne prenez que vos oreilles, c'est le temps des chouquettes. Bonjour Alexias Trézy.
Bonjour Lucas.
Je me suis permis, Alexias Trézy, d'ouvrir l'émission avec le célèbre accordéon de Yann Tiersen, qui n'aime d'ailleurs pas particulièrement être réduit à la musique d'Amélie Poulain. Mais est-ce que vous en avez eu, vous, des échos de la comparaison de Simone Guillou, votre personnage, avec le film de Jean-Pierre Jeunet ?
Alors, je n'aime pas non plus trop que la seule référence qui soit évoquée à propos de mon roman soit Amélie Poulain. Néanmoins, je dois reconnaître qu'elle s'impose. Et ce, d'autant plus qu'en fait, l'écriture de ce livre a à voir avec Amélie Poulain. Je peux vous raconter une petite anecdote. J'étais en fait scénariste au siècle dernier. Dit comme ça, c'est un peu effrayant, évidemment. Et dans les toutes dernières années donc, du XXe siècle, j'avais écrit un scénario de moyen-métrage qui s'appelait « Grand Prince », dans lequel un crapaud en ciment disparaissait et envoyait des cartes postales à son ancienne propriétaire. Voilà, je devais réaliser le moyen-métrage avec Marthe Villalonga dans le rôle principal. J'avais un producteur, j'avais fait les repérages pour le film. Quand Amélie Poulain est sortie sur les écrans et le succès immense et planétaire du film a fait qu'évidemment j'ai remballé ma marchandise et je me suis dit caramba, voilà. Et puis je pensais avoir oublié mon histoire. Je pense que suffisamment de temps s'est écoulé depuis que le film Amélie Poulain est sorti sur les écrans, pour aujourd'hui la reprendre sous une forme différente, donc romanesque, parce que plus que jamais m'est apparu nécessaire de porter le petit message que contient ce roman.
Le livre s'ouvre donc sur le quotidien de Simone qui réside à Barton-en-Ré, une ville fictive mais qui ressemble énormément à des villages de la côte ouest de Loire-Atlantique. Simone vit seule, n'a plus, en tout cas voilà, au début de votre récit, on pourrait dire le goût des choses, n'est plus émue par les choses. Et pourtant, et paradoxalement, elle y trouve parfois une forme d'apaisement, mais tout de même, elle s'ennuie. Et vous écrivez ceci, la vie, Simone a même l'impression de la regarder de loin, au travers d'un carreau sale. Et pour commencer, je voulais savoir un petit peu, qu'est-ce qui vous avait donné envie, pas forcément d'écrire sur la vieillesse, puisque le livre ne se réduit absolument pas à ça, mais en tout cas de choisir, ce qui est, en tout cas à mon sens, pas si fréquent que ça en littérature contemporaine, un personnage d'une vieille dame de 85 ans.
Alors, ce qui m'a donné envie d'écrire sur, effectivement, une grand-mère, une vieille dame, c'est précisément le fait que ce soit rare. Voilà, on y pense rarement. Surtout une petite dame comme ma Simone, qui n'a rien de très romanesque, rien de très saillant, rien de spectaculaire. Et moi, ça m'intéressait énormément qu'on s'attache à elle, pour plein de raisons. La première, la plus évidente, la plus personnelle, c'est que j'étais moi-même très attachée à ma grand-mère, qui était une dame de condition et de caractère modeste, et que je n'ai pas pris la mesure de son vivant pendant ma jeunesse, des qualités immenses qui étaient la sienne, les siennes, la dignité, la solidité, la gaieté face aux épreuves. Voilà, c'est des choses, il faut avoir un peu mûri, avancé en âge, je crois, pour en prendre la dimension. Donc je voulais rendre hommage à ces petites gens, leur dire bravo, leur dire merci, leur dire tout ce que je leur dois, et éventuellement même alerter les lecteurs ou changer un peu le regard sur ces gens qui n'ont rien de très d'exceptionnel à première vue et qui sont en fait des gens merveilleux, formidables. Et voilà, ça c'était la première raison. La deuxième raison serait d'une certaine manière un peu plus politique. On écrit avec l'état dans lequel on est, et il se trouve qu'il y a 2 ou 3 ans, mon état à moi n'était pas fameux à cause de l'état du monde, simplement. C'est-à-dire que quand on se réveille le matin en se demandant où la guerre a éclaté, qui a fait quoi. Voilà, c'était le début de l'Ukraine, il y a eu Gaza, il y a eu... Et donc, j'étais collée au mur, comme tout le monde. Et à ce moment-là, vous vous rappelez, il y avait cette phrase de Camus qui disait « Le suicide est la seule question philosophique qui vaille ». Voilà, moi, tout à coup, je me suis dit que l'espoir, la possibilité de l'espoir était la seule question philosophique qui valait. C'est-à-dire comment résister, comment faire face à l'impuissance qui est la nôtre, quels sont les moyens dont nous disposons, voilà. Et j'ai eu besoin de lumière, j'ai eu besoin de chercher l'optimisme quelque part. Et cette petite Simone est un truchement, et le truchement ou le véhicule absolument parfait pour transporter, pour charrier, voilà, pour effectuer un déplacement vers la lumière, vers l'optimisme, vers... voilà, elle s'arrache à elle-même, c'est-à-dire à sa condition de dame qui ne fait plus rien, qui ne s'intéresse plus à rien, qui n'a jamais lu, qui n'est pas cultivée au sens où on l'entend communément. Et elle va faire des découvertes qui vont la faire sortir d'elle-même, de sa condition, échapper à tous les déterminismes qui ont régi sa vie, et la voir se relever, la voir se mettre debout. Voilà, d'une certaine manière, c'est un message politique. C'est ainsi que je l'entendais. Donc derrière le premier niveau de lecture charmant de l'histoire d'une vieille dame à qui il arrive... quelque chose de troublant, puis de merveilleux, dont elle va faire son sel. Moi, je sais que ce que je raconte est aussi de l'ordre. On peut tous faire quelque chose de plus. On peut tous devenir des gens mieux, meilleurs ou plus grands. On peut tous se lever. Voilà. Et puis, quelque chose de sa condition populaire me touche infiniment. Après tout, c'est le gros des troupes de la population française. Et alors, ce n'est pas la grande précarité, ce n'est pas non plus la bourgeoisie. C'est un entre-deux très commun dont on parle assez peu parce qu'eux-mêmes ne font pas tellement de bruit. Et je trouvais intéressant d'écrire sur eux, de trouver le moyen de le faire et de dire à quel point, et je le pense vraiment, quelque chose d'une bataille cruciale se joue de ce côté-là.
Et pour vous, justement, puisque vous parlez du point de vue politique, il y a des romans qui abordent le sujet politique de manière beaucoup plus frontale ou disons... non pas terre à terre, mais qui vraiment vont situer leur action dans des lieux de pouvoir, avec des personnages directement liés à la machine étatique ou d'autres, etc. Ce qui, là, de fait, n'est pas du tout le cas, mais quand même, et on le sent bien à la lecture, et puis là, en vous écoutant, qu'il y a un biais politique dans un autre sens qui est tout aussi noble. Mais est-ce que du coup, ça vous est venu, ce lien que vous faites là, il est venu après coup, ou vraiment, ça a été aussi un point de départ, et très vite, vous vous êtes dit, bah, ma manière de faire de la littérature, ça peut être celle-là, ce pas de côté, ce décalement, de parler de la vie des gens, et la vie des gens est éminemment politique.
Oui, oui, c'était présent tout de suite. Alors effectivement, c'est pas sous les apparences d'une littérature de combat, mais par contre, la décision d'en faire une littérature de témoignage a été présente dès le début. C'est aussi pour ça que, plus que la référence à Amélie Poulain, le fait que je cite Raymond Depardon dans le livre est porteur de sens pour moi. C'est-à-dire que je voulais, et dans cette valeur documentaire, d'une certaine manière, je voulais montrer d'une part les gens de ce milieu tels qu'ils sont, mais montrer également qu'ils sont plus que ce qu'ils semblent être. Voilà, ça aussi c'est politique. Alors c'est politique évidemment, vous l'avez compris, pas au sens de la politique, mais au sens du politique, au sens de l'absence totale, résolue, de mépris, de condescendance, de quelque position de surplomb que ce soit, y compris d'un point de vue littéraire. C'est donner la parole à ces gens, donc c'est pour ça que le récit et les aventures de Simone sont intercalées de ce qui semble être des interviews dont on comprendra à la fin quels étaient leur statut. Et donc, il y a des textes qui, voilà, s'apparentent vraiment à des interviews, donc avec une littérature de l'oralité. Et c'est vrai que quand je dis littérature de témoignage, alors c'est pas, vous voyez, comme Svetlana Alexeyevitch ou Jean Hatzfeld, qui eux se sont attaqués évidemment à des questions dramatiques du XXe siècle, le génocide rwandais, Tchernobyl, la Seconde Guerre mondiale. Voilà, ça c'était la référence absolue, immense, de livres qui m'ont incroyablement impressionnée et qui sont vivants dans ma tête. Moi, j'ai un peu triché ça. D'une part, je l'ai amené dans un territoire beaucoup moins dramatique, mais c'est présent dès le début, c'était présent dès le début dans ce projet qui était donc de donner la parole à des gens qu'on n'écoute pas et qui ont des choses à dire. Et c'est vrai que c'est politique aussi, dans le sens où je voudrais que ce livre circule entre les grands-parents et les petits-enfants, dans les familles. C'est un livre qui milite pour la réactivation du lien, des liens. Et ce mot-là, le lien intergénérationnel, les liens sociologiques, la force du village, la solidarité, évidemment, toutes ces paroles-là, on voit bien qu'elles sont politiques. Même si, quand on lit l'histoire et les aventures de Simone, on a l'impression qu'il y a une petite musique, enfin, on a l'impression, on suit d'abord une petite musique et une trame narrative qui parle de choses beaucoup plus légères que ça, mais en évoquant des problèmes, voilà, la solitude, la vieillesse, comment remédier, comment aider, comment tendre la main à nos anciens qui sont parfois oubliés sur leur canapé et qui valent tellement mieux que ça.
Alors il y a une scène, je vais revenir sur la question du langage qui est extrêmement importante, mais sur la question des liens familiaux, et l'isolement des personnes âgées. Il y a une scène, moi, que j'ai trouvée vraiment très, très belle dans votre livre. Simone a donc un fils, Thierry, qui est commercial et qui donc fait beaucoup de prospection et qui est souvent sur les routes, et il profite généralement du fait de passer près du village de sa mère pour aller déjeuner chez elle. Il a à la fois tendance à prévenir un peu au dernier moment et à éventuellement annuler sa venue au dernier moment. Et donc là, ce jour-là, il doit venir déjeuner. Simone passe toute la matinée à préparer le déjeuner. Ça lui prend énormément de temps, énormément d'énergie. Elle y met énormément de soins comme une mère qui aime son fils. Et 20, 15 minutes, 30 après l'heure qui devait être l'heure du rendez-vous, Thierry appelle en disant qu'il a eu un imprévu, qu'il a dû voir un de ses clients, qu'il ne viendra pas, et il espère que Simone ne lui en veut pas. Et ensuite, vous avez cette très belle scène où Simone est assise dans la cuisine, regarde la viande qu'elle a cuisinée, qui sort du four, voilà, qui est sur la table, et vous décrivez ça comme une nature morte. Et cette scène, voilà, moi, elle m'a fait penser à beaucoup de choses. Je pense qu'elle a été vécue par à la fois beaucoup de parents, par beaucoup de grands-parents, mais surtout cette scène-là de l'invisibilisation et du fait que vieillir, c'est aussi, aux yeux de la société, de notre entourage, un peu s'effacer et sortir de l'imaginaire des uns et des autres.
Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'on a tous fait cette expérience-là d'annuler au dernier moment ou de ne pas tenir une promesse ou de rechigner à passer un coup de fil, toujours le même, chaque semaine, voilà, à nos grands-parents ou à des personnes âgées ou à des. Voilà, sans mesurer l'importance que ce coup de fil ou cette visite avait dans les vies de ces personnes. On a tous, je pense, dans notre besace des lapins qu'on a posés et on vit avec. Voilà, il ne s'agit pas de culpabiliser, c'est évidemment des rythmes différents, des vies dans lesquelles ces déjeuners-là, un peu fastidieux, un peu laborieux, un peu ennuyeux, ne trouvent pas simplement leur place. On a mille autres choses à faire. Alors que ces gens-là comptent sur nous et dans le cas de Simone, ne le font ni peser ni savoir. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est émouvant, je trouve, dans son attitude, c'est que quand son fils annule au téléphone pour annuler sa venue et s'en excuse, c'est-à-dire qu'il n'est pas mauvais bougre, elle lui dit « mais c'est pas grave du tout, voilà ». Et ensuite, nous, lecteurs, on est avec elle quand effectivement elle s'assied dans son canapé après des heures de ménage, de cuisine, et qu'on comprend son dépit, sa tristesse, sa déception, mais elle a trouvé in extremis le sourire, la force de sourire au téléphone à son fils, et elle a fait semblant de prendre ça avec légèreté, alors que c'est terrible et que c'est un vrai moment d'abandon. Il se trouve qu'ensuite, moi, je donne la parole dans le roman au fils, qui, d'une certaine manière, va tenter de se justifier, va expliquer également ce qui se joue dans les liens avec sa mère, qui sont des choses qui ne sont pas non plus là. Dramatique, c'est ce qui peut se jouer, c'est tous les non-dits, toutes les choses comme ça, les efforts, ce qu'il y a de pesant parfois dans les rapports aux parents. Et Simone, qui entendra effectivement ce témoignage, va en être bouleversée, et les rapports, on peut l'espérer, seront modifiés parce que les choses auront été dites. Et c'est vrai que c'est un petit appel à la générosité, sans doute, c'est-à-dire que ces visites, que ce soit à l'hôpital ou dans les maisons, ou ces choses qui nous apparaissent comme des corvées, idéalement, il faudrait quand même qu'on arrive à trouver le moyen de les faire, parce que c'est pas grand-chose, ça ne demande pas tant que ça, et eux, ça leur apporte tellement, voilà.
Et alors, on en parlait aussi avant, mais un autre point vraiment que je trouve central dans votre livre, et qui peut être un lieu de douleur ou de conflictualité, disons, c'est la question du langage. Ce rapport de Simone au langage, il est souvent douloureux, souvent empêché. Elle dit souvent que les mots lui manquent, et vous écrivez notamment ceci. Ces gens haut placés, mères et pontes en tout genre, elle en a peur. Ils connaissent trop de mots, et elle, pas assez. Dès qu'ils font leurs belles phrases, on se sent disparaître. Et ça rejoint pour moi ce que vous avez dit sur l'aspect politique de la chose, parce qu'évidemment, ce rapport au langage, il est souvent vécu aussi comme un rapport de domination, d'humiliation par les gens que vous représentez dans ce roman-là. Justement, vous, en tant que romancière, écrivaine, les mots, c'est votre matériau de travail permanent. Comment on fait, justement, quand on écrit ces personnages-là, pour ne pas se retrouver du côté du dominant dans ce rapport de langage?
Alors c'est une question intéressante, c'est un problème qui s'est posé à moi, effectivement, d'autant plus que mon dernier roman, Des lendemains qui chantent, racontait la vie et le destin d'un orphelin qui allait devenir un immense ténor. Et donc tout le livre, qui était un gros roman, se passait dans le milieu de l'opéra et était assez érudit, avec évidemment un vocabulaire qui empruntait à la sphère lyrique, à la musicologie. Voilà. Donc là, avec Grand Prince, je suis dans un registre totalement différent. J'essaye d'employer, enfin, je n'emploie que des mots simples. Et je devais faire parler Simone et entrer dans sa tête, donc montrer comment elle réfléchissait, sans surplomb, effectivement, puisqu'il ne s'agit absolument pas de la juger, mais en montrant cette fragilité qui est la sienne face à la conscience ou à la certitude fausse, évidemment, c'est ce que je me suis par ailleurs employée à démontrer, à prouver, qui était la sienne, d'être incapable de s'exprimer, de ne pas valoir autant que ces gens qu'elle admire, parce qu'ils savent parler. Le langage, vous l'avez dit, et la maîtrise du langage, c'est évidemment un lieu de pouvoir. Quand on est dépourvu, quand on n'a pas fait d'études, ce qui est le cas de Simone, puisqu'elle a dû prendre la suite dans les marais salants, voilà, saunier, c'est un métier qui se transmet de père en fils. En l'occurrence, il n'y avait pas de garçon, donc ça a été de père en fille. Elle n'a pas eu d'autre choix, comme ça se faisait à l'époque, que d'arrêter l'école, même si elle aurait souhaité, voulu, aimé continuer. Mais donc, elle n'a pas de diplôme en poche et elle a une sensation, effectivement, de grande vulnérabilité face aux sachants. Ce que je voulais dire et ce que j'ai essayé de montrer, c'est à quel point le fait de ne pas maîtriser un langage technique complexe ou érudit n'empêche ni l'intelligence ni la justesse. Ça va au-delà du bon sens. Voilà. Simone, c'est quelqu'un qui a un potentiel absolument immense. C'est quelqu'un qui, dans d'autres circonstances, aurait pu devenir une intellectuelle ou une professeure, si tant est que ce soit des choses souhaitables. C'est-à-dire que le fait qu'elle n'ait pas fait d'études ou qu'elle ait l'impression d'avoir un vocabulaire réduit, ce qui est peut-être le cas, n'empêche absolument pas qu'avec le peu de mots ou la peu de disponibilité lexicale qui est la sienne, elle arrive à dire des choses incroyablement pertinentes, précises, vraies, authentiques, qui font mouche. Et donc, tout l'effort du livre sera d'une certaine manière d'arriver à convaincre Simone de sa propre valeur, c'est-à-dire de retourner l'admiration qu'elle a pour les sachants, de retourner cette admiration sur elle-même et qu'elle prenne conscience de sa propre valeur et du fait qu'elle n'a pas grand-chose à leur envier et rien en moins. Et c'est vrai que tout le travail littéraire était d'arriver à trouver la langue juste, authentique. Alors ce qui m'a aidée, j'aurais pu commencer par là, enfin je l'ai un peu fait, c'est que j'ai encore dans l'oreille et dans la tête, voilà, des discussions de gens de ce milieu-là auxquels j'ai assisté et que j'ai essayé d'une certaine manière de caser, où j'ai essayé de faire reparler ces gens. Et puis par ailleurs, c'est quelque chose auquel je crois.
Alors il y a une chose liée à ça, la culture avec un grand C, qui va redonner confiance, ou en tout cas faire ressentir à Simone qu'elle peut tout à fait être sensible à l'art. Et alors je ne vais pas en dévoiler les raisons, mais elle se met à s'intéresser au pain de Pierre Soulages. Et finalement, en découvrant ses peintures, elle va explorer à nouveau frais donc sa sensibilité et son rapport à l'art. Elle ne l'explique pas véritablement, mais ça lui plaît de regarder ses peintures. Et vous écrivez notamment « La peinture, elle n'y connaît rien, mieux, elle s'en fiche. Mais avec ces tableaux-là, c'est différent, ils lui plaisent, comme ça lui plaît d'entrer dans une église, elle n'y va évidemment pas pour prier, juste être là, eh bien c'est pareil. Alors voilà, qu'est-ce que la peinture de Soulages, ça va apporter à Simone et qu'est-ce que ça vous a permis surtout d'explorer dans ce personnage-là ?
Mettre en présence Simone et Pierre Soulages, effectivement, c'est une confrontation, enfin c'est provoquer une confrontation étrange, a priori dissonante, parce que on voit bien que l'univers pictural, esthétique de Soulages ne correspond pas du tout à ce qu'on s'attendrait être les goûts de Simone. C'est justement pour ça que ça m'enchantait de les présenter l'un à l'autre, parce que je pense qu'effectivement il y a une fraîcheur possible, délestée de tout a priori chez Simone, qui fait qu'elle peut accueillir des tableaux tout noirs, les outres noirs de Pierre Soulages, sans savoir où les poser dans l'histoire de l'art du XXe siècle, sans se poser la question. Il ne s'agit pas de la transformer en historienne de l'art. Il s'agit simplement de laisser quelqu'un se déterminer librement face à sa sensibilité, enfin avec sa sensibilité, face à une proposition artistique. Or, non, ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait de grandes études ou qu'on n'a pas d'éducation à l'histoire de l'art du XXe siècle ni des siècles précédents qu'on ne peut pas être sensible, être touché par une proposition aussi forte, aussi radicale que l'œuvre de Soulages. Première chose, donc déjouer les déterminismes, ne pas être dans le cliché, c'est-à-dire que Simone Guillou, petite dame modeste, n'est pas juste sensible qu'au coucher de soleil ou aux petites marines. Voilà, ça c'est se raconter des histoires et c'est vraiment faire un procès à ces gens qu'ils ne méritent pas. La deuxième chose, c'est que Soulages, lui-même, le peintre, dont moi le travail me plaît beaucoup, a dit et répété avoir travaillé toute sa vie sur la lumière. Voilà. Or, quand on regarde ses tableaux, ce qu'on voit d'abord, c'est du noir assez opaque, et effectivement, de temps en temps, des petites choses qui scintillent un peu, des petits reflets et tout ça. Mais il y a un paradoxe entre ce que le discours de Soulages sur son œuvre et le constat ou l'expérience qu'on fait quand on se retrouve face à ces tableaux. Ce paradoxe, il n'est qu'apparent. En fait, quand on s'approche de ces toiles, quand on va dans les musées, quand on lit des entretiens que Soulages a donnés avec, là aussi, une langue incroyablement simple, une intelligence de son travail absolument merveilleuse, mais qui emprunte des images très concrètes. Il venait d'un milieu, il est né à Rodez, il venait d'un milieu ultra modeste. Ce n'est pas du tout l'intellectuel de l'histoire de l'art que la radicalité de son travail pourrait laisser imaginer. Et les images qu'il emploie viennent beaucoup plus souvent de cet ancien métier de viticulteur qui a été le sien. Et d'une certaine manière, tout ce qu'il dit de son travail sont des choses qui parlent à Simone et qui lui parlent, y compris quand elle se souvient de ce à quoi elle était sensible et ce à quoi elle faisait attention quand elle était dans les marais salants. C'est-à-dire qu'en fait, une connivence et de langage et de référence va se nouer entre notre Simone et Pierre Soulages. Cette rencontre-là, surprenante à première vue, moi, ça a été un immense plaisir pour moi que de l'organiser et de déjouer effectivement et la question des déterminismes, des clichés et de voir quelqu'un qui tout à coup trouvait effectivement beau et comprenait à quel point, oui, on peut essayer de chercher la lumière, y compris dans le noir.
Merci, Alexia Strezi. Je pense qu'on peut se quitter sur ces mots et inviter nos auditeurs et auditrices à découvrir l'œuvre de Pierre Soulages, à lire évidemment Grand Prince, votre nouveau roman, et à peut-être regarder différemment ou penser à regarder et à voir ces personnes qu'on appelle âgées dans notre société. Voilà, merci beaucoup. Quant à nous, chers chouquettes du monde entier, on se retrouve très vite pour de nouvelles réjouissances littéraires. D'ici là, bonne lecture.